On essaie une nouvelle formule à Que Québec se lève. D'abord, je suis très content de pouvoir réaccueillir Mathieu Boivin pour sa chronique hebdomadaire. Salut Mathieu!
Salut Paul, t'as pas mis ma petite sifflette là-haut sur la colline?
Non, puis je vais m'en ennuyer de ta petite sifflette là-haut sur la colline, mais c'est parce que t'es plus sur la colline, qu'est-ce que tu veux?
Voilà, exactement.
Ça fait que là, on t'a demandé à chaque semaine, puisqu'on appréciait beaucoup ta collaboration, on t'a demandé de quand même être avec nous autres, mais de nous faire un petit éditorial sur les nouvelles du jour.
Oui, exactement. Ben, en fait, c'est toujours approprié parce que je fais les nouvelles dans l'émission du retour, comme oui. Les auditeurs l'ont peut-être remarqué. En tout cas, je l'espère. Et ben, justement, c'est le mandat que je me donne. Regardez les nouvelles courantes. Souvent, c'est les nouvelles du matin même. Des fois, je peux revenir aussi sur quelque chose qui a attiré l'attention hier. Puis c'est le cas avec mon premier sujet ce matin.
Ben oui, c'est sûr que l'acquittement des accusés de Lac-Mégantic, on en parle encore beaucoup ce matin. C'est encore
avec raison. Avec raison. Écoute, quand la nouvelle est tombée, d'abord, on a eu une espèce d'alerte. Là, on nous dit, hey, le jury est revenu dire au juge, on est prêt à rendre un verdict. Donc là, tout le monde est sur le bout de sa chaise, on retient notre souffle. Puis d'une certaine façon, puis je pense que c'est normal, on a tous l'impression qu'il faut que quelqu'un paye pour ça, puis on est fait comme ça le plus vite possible.
Ouais.
Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait un jugement de culpabilité de négligence criminelle ayant causé la mort. Hey, si le conducteur qui n'a pas mis les freins, si le contrôleur qui n'a pas donné les bonnes indications sont pas coupables, qui va l'être? Ben là, surprise, on a eu le souffle coupé, le jury n'a pas été capable, les 12 personnes n'ont pas été capables de dire tous ensemble d'accord, unanimement, on te déclare coupable, toi, Tom Harding, le conducteur, Richard Labrie, le contrôleur de trafic, puis Jean Demaître, le directeur des opérations. Donc, les trois hommes sont libres comme l'air. Évidemment, ils ont ça sur la conscience pour le restant de leur jour. Ça, c'est une punition qui est non négligeable. Mais nous, plus globalement, on s'attendait à ce que quelqu'un paye. Puis là, il n'y a personne qui paye pour ça. Mais tu sais, c'est peut-être le prix à payer pour l'instant, notre déception, pour qu'on règle les choses pour vrai.
Parce qu'il y a bien des analystes qui ont dit, depuis le début, ce procès-là aurait jamais dû avoir lieu. C'est une commission d'enquête publique qu'on aurait dû avoir parce qu'il aurait fallu qu'on cible Transport Canada et la MMA.
Exactement. Rappelez-vous la face de carême de Ed Burkhardt. Rappelez-vous là, le gars, la face en galoche qui s'avait pris des jours avant qu'il arrive à Mégantic puis qui avait l'air à se ficher de tout le monde. Là.
Oui.
Lui, là, qu'est-ce qu'il a à rendre comme compte? Qui a revu Ed Burkhardt dans les nouvelles depuis l'été 2013, l'été de la tragédie? Personne.
Ah non,
lui, il doit continuer à faire de l'argent avec des compagnies qui pressent comme des citrons, qui négligent les installations, qui négligent la sécurité. Puis il doit continuer encore comme un vrai bon corporate raider à faire de l'argent comme il l'a toujours fait en attendant la prochaine tragédie. Nous, évidemment, comme tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent, c'est le procès des trois gars qui étaient sur le terrain, ben on se disait, c'est comme ça qu'on va se venger.
Ben oui.
Et là, la justice est en train de nous dire, un instant. Puis d'ailleurs, les jurés ils ont posé des bonnes questions aux juges cette semaine. Quand ils sont revenus, ils ont dit, dites-nous c'est quoi la différence entre ce qu'eux ont fait et ce que n'importe qui d'autre de raisonnablement constitué aurait fait dans les mêmes circonstances. Là, on se rendait bien compte qu'il y avait... Ben, je dis un problème entre guillemets, on se rendait bien compte qu'il allait avoir de la difficulté à dire que ces gars-là avaient été vraiment criminels dans leurs agissements.
C'est ce que les analystes aussi disent, hein? C'est ce que les avocats disent. Démontrer la négligence criminelle, c'est extrêmement difficile parce que
oui,
Tom Harding a probablement fait une erreur. Maintenant,
c'est clair.
Il faut démontrer que d'autres personnes de compétences égales auraient ou n'auraient pas fait la même erreur que Tom Harding.
Donc, là, c'est ça. Le jury en est arrivé. On a pressenti que c'est ça qui se préparait, mais on a quand même été surpris. Le jury a décidé que non, ces gars-là n'ont pas été que des criminels. Ils ont juste été les rouages d'un système qui va pas bien. Mais alors là, on est tous déçus, sauf les gens de Mégantic. Les gens de Lac-Mégantic le disaient au sortir de la salle d'audience. C'est pas eux autres les vrais coupables. Les vrais coupables, tu les as nommés, c'est Transport Canada qui accepte que des compagnies de broche à foin fassent de l'argent en n'investissant pas ou en investissant trop peu dans la sécurité et dans leurs installations.
Voilà.
Alors là, si cette affaire-là doit avoir des suites, il faut que ce soit dans des changements réglementaires, l'encadrement, les voies de contournement aussi. Mais ça, ça coûte une fortune. Puis juste en passant, ça va nous mettre un peu le nez dans notre caca aussi, là. Parce que le problème, c'est les matières dangereuses qui circulent par rail.
Ouais.
Mais ces matières dangereuses-là, il pourrait y avoir d'autres façons de les transporter, mais on n'en veut pas. Tu sais, là, les pipelines... Ça arrive pas, là, les explosions de pipeline. Le pire qui peut arriver, puis c'est plate, c'est pas souhaitable, mais le pire qui peut arriver, c'est un déversement.
Ouais.
Les explosions, ça arrive pas. Alors là, à un moment donné, il va peut-être falloir regarder nos propres contradictions aussi. Oui, je veux bien une voie de contournement à Lac-Mégantic. Ça va coûter une fortune, mais on leur doit bien ça. Mais dans toutes les autres petites villes qui ont été construites autour des voies ferrées, les voies de contournement, ça va coûter une beurrée, là. On n'a pas forcément moyen de ça. Alors, peut-être, encore une fois, qu'il va falloir regarder un peu dans notre propre cours, nos contradictions, puis se dire, ben regarde, peut-être sans... que les pipelines, c'est pas si pire, finalement.
Mathieu, sans doute qu'en quelque part, faire cette démarche-là, puis en arriver à ces conclusions-là, on n'est pas... Tu sais, dans le fond, on voit bien que pas personne veut la faire. Là. Il y a comme... Là-dedans, il y a comme une, quelqu'un
qui se cache. Ça aurait été plus facile de se satisfaire d'un verdict de culpabilité de trois pauvres diables, puis de dire, OK, justice a été rendue, on peut penser à d'autres choses. Mais là, ça nous met le nez dans notre caca, puis nous forcer à réfléchir. Non, si vous voulez, si vous êtes sérieux, pas juste blabla, là, si vous êtes sérieux pour régler le problème, regardez les vraies causes, puis regardez vos propres contradictions. Alors voilà où on en est, à mon avis, ce matin dans ce dossier-là.
Mathieu, je pensais pas que la controverse pouvait... en fait, que le mystère pouvait s'épaissir encore plus autour de l'UPAC, mais écoute, il semblerait que c'est le cas.
Écoute, là, on a appris cette semaine... Parce qu'il y a des affidavits. À toutes les fois que la police veut arrêter quelqu'un, il faut qu'elle demande à un juge un mandat de perquisition, etc. Dans les documents que l'UPAC a soumis pour arrêter Guy Ouellet, tu te rappelles toute la controverse?
Oui, absolument.
Ces mandats de perquisition-là étaient appuyés sur un affidavit. Là où la police explique au juge pourquoi c'est important d'aller saisir du stock chez cette personne-là.
Ouais.
Là, ces affidavits-là, ils nous ont révélé, on s'en doutait que l'UPAC soupçonnait Guy Ouellet d'être de mèche avec d'autres pour... divulguer de l'information confidentielle des enquêtes de l'UPAC aux médias. Ça avait filtré, ça, puis même Robert Lafrenière l'avait dit l'automne dernier. On l'a arrêté parce qu'il était sur le bord, puis il avait déjà commis, puis il était sur le bord de commettre encore des divulgations illégales.
Ouais.
Mais ce qu'on a appris, par contre, puis ça a mis tout le monde sur le derrière, c'est que M. Ouellet et ses autres les autres personnes qui étaient arrêtées en même temps que lui, pouvait avoir comploté pour influencer ou négocier une nomination. Hein? Personne n'avait rien soupçonné de quoi que ce soit de ce genre-là dans cette affaire-là. Mais nomination de qui? Mais nomination de quoi? La seule personne qui a eu une nomination dans le dossier de l'UPAC, c'est Robert Lafrenière lui-même.
C'est ça que j'allais dire. C'est le commissaire
et on
se
souvient, rappelle-toi, c'était pas acquis pour M. Lafrenière. Pendant un bout de temps, le gouvernement branlait dans le manche. Il a fini par être renommé, reconduit dans ses fonctions, mais il paraît qu'à un moment donné, c'était vraiment pas le choix du gouvernement. Et là, on apprend que Guy Ouellet et les autres qui ont été ciblés par l'UPAC pourraient avoir comploté pour négocier ou influencer une nomination. Qu'est-ce que c'est ça? Incroyable! Incroyable! Et là, hier, on apprend encore, M. Lafrenière, quand on demande pourquoi il y a des députés péquistes, Pascal Bérubé, puis caquistes, Éric Kerr, qui devaient être rencontrés par l'UPAC et qui ne l'ont pas été, la question est posée à M. Lafrenière. Pourquoi est-ce que finalement ces députés-là n'ont pas été rencontrés? Il dit, ah ben l'Assemblée nationale nous a envoyé une lettre pour dire qu'il y avait une immunité parlementaire sur les députés, donc on les a pas rencontrés. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. L'Assemblée nationale a envoyé une lettre pour dire, on n'a jamais demandé ça. Le commissaire Lafrenière utilise de faux prétextes pour expliquer sa conduite. Là, il y a quelque chose, là. Monsieur Lafrenière, c'est lui-même là, qui est encerclé par la controverse. Je comprends pas. J'aimerais ça être capable d'expliquer aux auditeurs le fin le jeu après jeu de toute cette affaire-là, mais là, ça prend une direction en quelques heures totalement inattendue qui pointe vers monsieur Lafrenière.
Non, puis on vient qu'on sait plus par quel bout de prendre ça. Moi,
qui les bons? C'est qui les pas bons?
C'est ça,
exact.
Qui
croire?
Je t'écoute, je lis les nouvelles, j'essaye de suivre ça du mieux que je peux, mais à un moment donné, il y a tellement de confusion puis de flou autour de ce corps policier-là, du fonctionnement, des arrestations qu'ils font puis des accusations, pourquoi il y en a, pourquoi il y en a pas, que honnêtement, là, c'est comme une pieuvre que t'arrives pas à saisir puis qui te glisse tout le temps entre les doigts, là.
Ben, c'est parce qu'en plus, le danger, c'est toujours la perte de confiance.
Ben, c'est clair.
Si d'aventure, il arrive à un moment donné à un verdict ou à des accusations ou à pas d'accusation, puis qu'ils nous disent les raisons, vas-tu les croire encore? M. Lafrenière a fourni un prétexte hier. L'Assemblée nationale, pas n'importe qui, l'Assemblée nationale lui dit c'est pas vrai. Hey! Excuse, mais il va te rester quoi comme crédibilité à un moment donné, là? Il n'y en a pas de carte de crédit, sa réputation, là. Une fois que tu l'as perdu. En tout cas, il va avoir des explications à fournir, M. Lafrenière, parce que cette histoire-là de perquisition puis d'arrestation de Guy Ouellet, présumément aussi pour un complot visant à influencer ou négocier une nomination, là, ça peut pas rester de même. C'est quoi cette affaire-là?
Hey Mathieu, toujours très, très intéressant d'avoir ton point de vue. Maintenant, un peu plus ton point de vue quand même, dans cette forme un petit peu plus éditoriale sur l'actualité du jour. On remet ça la semaine prochaine.
Ben, avec plaisir.
Merci, bye-bye.
Salut, là.
Mathieu Boivin, journaliste et maintenant chroniqueur éditorialiste au FM.